Chronique environnement de l'organisme du bassin versant du Témiscamingue avec le coordonnateur de projet en environnement en charge de la mobilisation à l'OBVT, Johan Jalouzeau, qui est au bout du fil. Bonjour, Johan.
Bonjour, Simon. Bonjour à tout le monde qui nous écoute.
D'abord, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Bien, aujourd'hui, on va plonger dans un enjeu clé pour l'agriculture, surtout dans un contexte de climat nordique comme le nôtre, celui de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on va parler de la gestion de l'eau en milieu agricole et particulièrement des enjeux qui sont liés à la rétention de l'eau au champ. On va voir pourquoi cette gestion, elle est cruciale, quels défis elle pose et comment on peut tenter d'améliorer les choses.
Parfait. Alors, par quoi veux-tu commencer?
Ben, en premier lieu, pour bien comprendre, faut revenir sur les réalités du monde agricole dans notre région. En Abitibi-Témiscamingue, la période de culture, elle est très courte en raison du climat nordique. Mais à cela s'ajoutent deux autres contraintes importantes. À la fois les sols qui sont argileux et donc qui ont tendance à retenir l'eau, et les sols gelés qui persistent relativement longtemps après l'hiver. Donc pour les producteurs et les productrices agricoles, ces conditions rendent le drainage des terres essentiel afin de pouvoir entrer en culture assez tôt au printemps et de mener les récoltes à terme avant la fin de la saison de croissance.
Et concrètement, comment le drainage des terres va aider les agriculteurs?
Ben, le drainage, il joue deux rôles majeurs. En premier, il permet d'assécher la terre au printemps. En d'autres mots, on veut que l'eau sorte le plus rapidement des terres afin de les rendre travaillables par la machinerie agricole. Et deuxièmement, il assure une bonne oxygénation des sols qui est essentielle pour que les racines des semis puissent s'implanter convenablement en terre. Sans drainage, ce qui va se passer, c'est que l'eau peut s'accumuler dans des cuvettes. Le sol, il devient lourd, il devient saturé. Les racines des plantes s'asphyxient et la machinerie ne peut pas travailler les sols. Donc, ça compromet à la fois les rendements, mais également la viabilité économique de nombreuses fermes.
Et ça semble, j'imagine, indispensable, mais j'imagine qu'il y a aussi des inconvénients au drainage?
Oui, absolument. Puis c'est pour ça notamment qu'on souhaite travailler sur cet enjeu. En fait, le même système de drainage va poser des problèmes, notamment en période de sécheresse, qui sont de plus en plus fréquentes à cause des changements climatiques. Donc à ce moment-là, le drainage devient problématique puisqu'il peut trop assécher les terres et abaisser le niveau des nappes phréatiques, ce qui fait que la disponibilité en eau pour les cultures peut devenir insuffisante. À l'inverse, quand c'est une période de pluie intense, par exemple, le drainage, il accélère le ruissellement de l'eau vers les cours d'eau, comme les fossés et les rivières. Puis cela, ça peut causer à la fois des crues qui vont être plus fréquentes et plus importantes, et un lessivage, ce qui va emmener des quantités importantes de matière en suspension dans les milieux récepteurs, comme les lacs et les rivières. En fait, de l'eau qui va vite, c'est de l'eau qui exacerbe également le phénomène d'érosion. Donc autrement dit, la terre, elle se retrouve tout simplement emmenée avec l'eau. Deux exemples concrets qu'on a au Témiscamingue, c'est le ruisseau Abica et la rivière La Loutre. Ces cours d'eau, qui sont situés dans des bassins versants agricoles fortement drainés, ils subissent des étiages sévères en été. Donc un étiage, c'est le niveau le plus bas que peut atteindre un cours d'eau. Si on a un niveau d'eau qui est peu profond, l'eau, elle s'y réchauffe. L'oxygène dissous diminue et la concentration en minéraux augmente. Donc tout ça, ça va nuire gravement à la vie aquatique. Et si ça nuit à la vie aquatique, comme les macro-invertébrés, donc les larves d'insectes au stade adulte, eh bien ça va affecter l'entièreté de la chaîne alimentaire, puisque ces macro-invertébrés puis ces insectes, c'est de la nourriture pour une panoplie d'animaux, comme les amphibiens, les oiseaux, les chauves-souris, les petits mammifères, et donc dans la finalité, les gros mammifères et toute la chaîne.
Donc, la question à 100 $, comment on pourrait faire pour remédier à ces problèmes-là?
Eh bien, il faudra adopter de nouvelles pratiques agricoles qui permettent de mieux gérer l'eau au champ. Par exemple, en augmentant la rétention de l'eau dans le sol pour mieux faire face aux périodes de pénurie et notamment en redonnant l'aspect d'origine aux cours d'eau. Parce qu'on s'entend, à la base, des cours d'eau, ils n'étaient pas linéaires comme ils le sont aujourd'hui. Donc, comment on fait ça? Eh bien, en fait, on va recréer des méandres, on va recréer des plaines inondables qui vont pouvoir stocker l'eau, qui vont pouvoir jouer le rôle d'éponge, tout en conservant un drainage suffisant, parce qu'on veut conserver le drainage, mais également en conservant en fait des espaces naturels qui permettent le maintien de la biodiversité, qui, pour rappel, elle est essentielle en milieu agricole, notamment pour lutter contre les ravageurs, pour assurer la pollinisation, pour apporter un certain équilibre écologique sur les parcelles. Et dans ce sens, en fait, le BVT souhaite créer une cohorte agricole régionale afin de discuter des bonnes pratiques et des solutions qui permettent de conjuguer exploitation agricole et maintien de la biodiversité au champ. Donc, j'en profite donc pour mentionner aux auditeurs, auditrices, que si vous connaissez une entreprise agricole, si vous êtes vous-même intéressé à participer à cette cohorte agricole pour la biodiversité, il n'y a qu'à nous contacter par téléphone, par courriel ou par Facebook, puisqu'on est en train de créer cette fameuse cohorte.
Et, c'est quoi cette cohorte-là exactement?
Ouais, faudrait commencer par ça, c'est vrai. C'est une initiative, en fait, qui rassemblerait des entreprises agricoles intéressées à mettre en place des pratiques innovantes et durables en faveur de la biodiversité sur leurs parcelles. Donc, il y a trois objectifs principaux là-dedans, qui sont de partager les succès et les échecs entre les agriculteurs et agricultrices, de structurer la démarche, donc avec des rencontres, des sorties terrain et potentiellement des aménagements futurs, c'est vers ça qu'on veut aller, dans le but de maximiser des résultats bénéfiques pour l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue. C'est de motiver les participants à adopter des pratiques en fait qui profitent autant aux cultures qu'à l'environnement. Donc c'est un moyen de concilier en fait résilience des cultures et santé des écosystèmes locaux en faisant de la concertation vers un passage à l'action.
Très instructif. Pour finir, Johan, qu'est-ce que peuvent faire les auditeurs qui sont intéressés par ce projet-là?
Eh ben, je les invite tout simplement à suivre les activités de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue sur notre page Facebook ou à nous contacter directement pour en savoir plus si vous souhaitez intégrer la future cohorte régionale qui va voir le jour. Puis pour travailler, en fait, il faut travailler ensemble si on veut aller de l'avant et améliorer nos pratiques. C'est la clé si on souhaite un avenir agricole durable pour toute notre région de la Abitibi-Témiscamingue.
Ben, merci encore, mon cher Johan, et on se dit à la prochaine.
Au plaisir, Simon. À bientôt. Merci.
Au revoir.